de l'Université de Bounia. Encore une fois, sous vos applaudissements. Merci d'être là. Merci d'être venus nombreux participer à cette émission sur la pacification de l'Ituri. Merci à toute l'équipe de production du magazine Okapi Service. Et nous allons continuer avec ce thème. Qu'est-ce qu'il faut? Quelles sont les solutions pour amener la paix dans la province de l'Ituri? Merci à tous les collègues de Radio Okapi Bounia. Merci d'être là pour participer à cette émission. Encore une fois, sous vos applaudissements et bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission.
Radio Okapi, Okapi.
Okapi Service, Jody Daniel Kachama.
Okapi. Dans la première partie tout à l'heure, on a évoqué les causes des conflits qui endeuillent la province depuis plusieurs années maintenant. Certains ont parlé de l'absence de l'État, la responsabilité incombe à l'État congolais. On a évoqué l'exploitation minière, les associations à caractère communautaire, etc. Certains ont parlé des mains noires, les pays limitrophes qui sont en train de sponsoriser les conflits en Ituri. Quelles sont les solutions durables pour amener la paix dans cette province meurtrie? Nous avons comme invité M. Dieudonné Lossa, il est coordonnateur de la société civile de l'Ituri. Et nous avons également M. Jean-Marie Mazio, il est le PCA. Le président du conseil d'administration de l'ONG Mwangaza, PIS, et l'ancien chargé des missions du programme Starec dans la province orientale démembrée. Tout à l'heure, M. Dieudonné Lossa, dans la première partie, nous parlait des recommandations que la société civile a toujours fait au gouvernement pour amener la paix dans la province. Pouvez-vous nous rappeler quelles sont ces différentes recommandations?
Nous avions, peut-être avant d'arriver à cette recommandation, je voulais quand même dire quelque chose par rapport à cet enfant qui plaide pour la protection des enfants déplacés. Vous allez remarquer avec nous que actuellement à Ville de Bounia, il y a beaucoup d'enfants déplacés qui sont confondus aux enfants de la rue dans la ville de Bounia. C'est un phénomène qui n'existait pas dans cette province, phénomène enfants de la rue, mais avec les déplacés qui sont autour de la ville, dans des grandes agglomérations, les enfants qui ne trouvent pas d'encadrement se retrouvent dans la rue. Et ces enfants grandissent même dans la ville de Bounia. On constate déjà beaucoup d'enfants. Parmi eux, c'est peut-être une information pour vous autres. Il y en a qui commencent, qui sont déjà engrossés parmi ces enfants de la rue. Et ça fait très mal parce que ces enfants ne sont pas encadrés, alors que nous sommes dans un état de droit où les enfants aussi ont droit à leur sécurité, à leur protection. Mademoiselle, dans le massacre d'avant-hier, il y a eu 23 enfants tués, soit calcinés, soit découpés par machette. 23 enfants. À côté, nous avons le gouvernement congolais. À côté, nous avons la MONUSCO qui tous sont là pour sécuriser cette population qui se retrouve dans les sites de déplacés. Mais leur présence n'a pas empêché la mort de ces enfants, le massacre commis sur ces enfants. Sous peu, je voudrais vous dire que, je voulais rappeler aussi que, n'est-ce pas, le secrétaire général adjoint, Monsieur Lacroix est passé à Ituri, il a visité quelques sites de déplacés. À une époque, quand nous grandissions, c'est ce que nos parents disaient, nos grands-parents, que lorsqu'on parle des Nations Unies, on voyait la paix. Le secrétaire général adjoint est passé dans les différents sites de l'Ituri. Il est revenu ici à ville de Bounia. Avant de partir, il a dit « Personne alors ne va échapper à la justice ». C'est là qui a trappé la main dans ce qu'on est en train de vivre à Ituri. Mais après lui, c'est combien de jours? Je crois que ça ne fait pas 7 jours après son passage qu'on puisse enregistrer ce genre de massacre. Nous avons toujours dit, parmi nos revendications,
il y a une dame qui a dit tout à l'heure que la paix, c'est d'abord nous-mêmes. C'est l'affaire des Ituriens entre eux. Je crois qu'il y a une dame qui a parlé de ça tout à l'heure.
Dans toute famille, il y a un chef. Ça veut dire qu'au sein de la famille, si deux ou trois personnes déraille aux règles, le chef de la famille a la mission de le ramener sur le rail. Notre chef de famille, son rôle c'est quoi? L'État, son rôle c'est quoi? Quand nous-mêmes, nous ne savons pas faire la paix. Que fait l'État à ce moment-là? C'est justement pour régler les différends. Mais il fait quoi à ce moment? Je disais que, parmi nos recommandations, vous le savez, depuis que Bounagana est tombé entre les mains de MV3, tous les militaires qui étaient en Ituri ont été retirés à faveur du Nord Kivu. On a fait voir qu'en Ituri, il n'y avait plus besoin de militaires, mais contrairement, on nous a livré aux groupes armés. C'est comme ça que les groupes armés opèrent calmement. Il n'y a pas de gens qui peuvent les empêcher, les militaires, les forces, qui peuvent empêcher tout ce qu'ils font. Dans nos recommandations, c'était de retourner ces militaires qui sont renvoyés au Nord Kivu et aussi ajouter l'effectif, parce que l'Ituri, quand même, c'est une grande province. On a besoin d'avoir des effectifs militaires pour contrôler toute la province et arrêter tout ce que font les miliciens. Nous avons aussi recommandé que tout cela qui tue la population inutilement dans cette province soit poursuivi. Mais combien de fois on a arrêté les gens qui tuent? Vous avez suivi combien de fois? Les gens tuent, après ils viennent même dans des réunions à ville de Bounia. On les voit dans des salons, on les voit dans des dialogues.
Il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu rien du tout.
On ne les a pas vus arrêter. On devait arrêter tous ces gens-là depuis tout cela. C'est parmi nos recommandations.
Merci beaucoup. Il y en a
nos
encore.
Nos recommandations, c'est aussi la protection de ces sites de déplacés. Ce qui vient de se commettre, c'est un crime contre l'humanité. On ne peut pas rester calme depuis dans la nuit du 12. On n'a pas encore arrêté et c'est le suspect. On devait déjà avoir mis la main sur ces gens-là. Donc, nous demandons que tous ces gens-là qui tuent, qu'ils soient arrêtés, qu'ils soient traduits devant la justice. C'est parmi nos recommandations. Parmi nos recommandations aussi, c'est que ces gens-là qu'on voit dans les sites, ils souffrent. Ils n'ont pas à manger. Si vous avez les enfants dans les rues, c'est parce que les enfants sont affamés. Ils vous demandent 100 francs parce qu'ils n'ont rien à manger. Ils ne sont pas rassasiés. Chez eux, il y avait des champs où on pouvait aller rechercher des cannes à sucre, des patates douces, des bananes. Mais il n'y en a pas ici à ville. Il n'y a pas de champs. Ces familles doivent rentrer dans leur village. Ce n'est pas dans cette condition que nous pouvons accepter de vivre. Parmi nous, il y a des enfants de ces familles-là déplacées. Parmi nous, il y a des enfants qui proviennent de ces familles-là qui souffrent à ce moment, qui ont abandonné leurs champs, dont les biens ont été pillés, saccagés, incendiés. Nous demandons que ces gens-là reviennent dans leur village. Et c'est ce qui peut faire en sorte que nous soyons tranquilles. La paix, effectivement, c'est notre affaire, mais c'est l'affaire de tous.
Merci, monsieur Dieudonné Lossa, coordonnateur de la société civile de l'Ituri. Nous avons quelques élèves qui sont avec nous dans cette salle. Ils sont de l'école Maindeleo, de la fondation Mahamba. Alors, il y a une élève qui a un poème. Je crois que c'est par rapport à la paix. Est-ce qu'on peut lui donner la chance de présenter? Merci de l'encourager.
Bonjour, distingués invités, très chères autorités, collègues et amis, chacun à son titre respectif, bonjour. Je me nomme Bapeke Mwayuma, je suis élève au sein du complexe scolaire Maindeleo. J'ai le réel plaisir de vous déclamer un petit poème qui s'intitule « Notre souffrance n'a que trop duré ». Une période de misère, une période de galère, une période des hostilités, celle des criotés. C'est la période que mon pays vit. Dure est devenue la vie. Nos mamans devenues veuves. Personne pour aider ces veuves. Délogées de leur milieu natal, elles dorment à la belle étoile. Nos frères et sœurs n'en parlent pas. Privées de père et mère, la vie leur est amère. Sous un soleil ardent, ils cherchent de quoi mettre sous la dent. Ils sont partout dans nos rues. Demandant par-ci par-là, là où des véhicules passent ça et là. Ils risquent leur vie alors qu'ils tâchent de sauver ces vies. Mais pourquoi cherchons-nous à tout avoir, quand bien même on a tout ce qu'on peut avoir? Flattés par les vendeurs d'illusions, nos frères ont perdu la vraie vision. Ces flatteurs leur ont promis bonheur, après tout. Où est ce bonheur? Leur situation est toujours la même. Pendant qu'ils sont sur les champs de bataille, ces flatteurs sont en ville bénéficiant du fruit de ces travaux. Aujourd'hui, je vous appelle mes frères. Malgré tout, nous vous portons ta cœur, frère. Levons nos fronts, quittez les fronts. Tous unis pour faire le bien, car il n'est jamais trop tard pour faire le bien. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Voilà un poème qui nous interpelle par rapport à la paix. Monsieur Jean-Marie Mazio. Jean-Marc, pardon. Vous avez suivi le poème, votre réaction?
Ok, merci beaucoup. Moi, je veux, d'abord, je félicite notre fille qui a salué tout le monde. Mais je sais qu'elle a manqué de souligner mes grands frères et mes grandes sœurs.
Je pense que vous pouvez pardonner, n'est-ce pas? Qu'elle retourne ici. Bon, viens dire chers grands frères et grandes sœurs.
Vraiment, je m'excuse, chers grands frères. Bonjour, chers grands frères, chers grandes sœurs.
Merci, c'est gentil.
Ok, merci beaucoup. Moi, je vais proposer quelques recommandations au regard de tout ce que nous avons connu comme discussion ici. J'aimerais préciser, par rapport à la situation que nous traversons en Ituri, je crois qu'on peut formuler des recommandations à plusieurs niveaux. Mais il y a quand même des besoins urgents de paix au regard de la violence que nous subissons pour le moment. Ce que je peux recommander en urgence, c'est d'abord des recommandations adressées au gouvernement. Le gouvernement devrait agir en urgence pour assurer sa présence, la présence de l'État. La situation que nous traversons, par exemple, aujourd'hui à Ndjougou, est aussi alimentée par l'absence de l'État, surtout dans son pilier militaire armé. Moi, je pense...
Monsieur Jean-Marc, sans vous couper la parole, pouvez-vous nous parler des autres conséquences de l'insécurité, des conflits en Ituri?
Oui, mais les conséquences, c'est clair. Vous voyez, aujourd'hui, on n'a pas parlé de... On n'est pas venu ici pour donner des statistiques. Mais je sais qu'il se pose un problème des exactions, des violations graves des droits humains. Il y a tout ce qu'on a ici comme les déplacements massifs.
Il semble que les agriculteurs ont abandonné les champs à Ndjougou, on ne sait plus cultiver la terre, et ça crée même une pénurie, on ressent la pénurie jusqu'ici à Bounia.
Mais tout le monde le sait. Aujourd'hui, les haricots, je donne un exemple, les haricots. Les haricots, on l'achetait il y a quelques mois, donc 10 000 francs, 11 000 francs. Mais aujourd'hui, tu donnes $20 pour acheter.
10 000 francs pour quelle quantité?
Pour les bassets de 10 kilos.
10 kilos.
On appelle bomba. Aujourd'hui, nous sommes dans tracatre 1000. Donc, il y a des conséquences de toutes ces violences sur l'économie des ménages. Ce qui est important pour le moment, je ne pense pas qu'on va reconstruire tout, mais c'est qu'on veut une présence dissuasive quand même de l'État. Surtout dans des zones comme Ndjougou, Irumu, Mambasa,
Mahagi
où il y a des atrocités.
Il semble qu'il y a aussi des vaches qui sont volées.
Ça, c'est d'abord une vieille histoire. Si on vous parle de pillage des vaches, là, c'est encore une autre histoire. Si aujourd'hui, quand même, on arrive à assurer la présence des militaires un peu partout, présence des policiers un peu partout, je crois que ça peut réduire cette présence dissuasive, peut quand même donner l'espoir en termes de protection civile Et je crois que ça peut avoir aussi des conséquences sur les sites de déplacés. Ça peut aussi favoriser les activités au niveau du village, les champs, et ainsi de suite. Un autre pilier, c'est aussi l'administration de la justice. C'est aussi l'administration de la justice que vous avez évoquée ici. Je crois que les gens doivent commencer aussi à répondre de leurs actes. C'est aussi une bonne pédagogie qui peut donner l'espoir à la population. Mais, quand bien même l'État va jouer son rôle, moi je pense que nous avons tous fustigé les conséquences de la guerre, des violences. Et ces guerres-là sont souvent animées par les enfants, ou bien je peux dire les citoyens ituriens. Si vous allez aujourd'hui à l'est de la République, prenons l'exemple, vous quittez Uvira, vous montez jusqu'à Bukavu, vous passez par Goma, Beni, jusqu'à Mahagi. Cette partie-là est inondée par les groupes armés. Mais la seule différence, c'est le mode opératoire. Les groupes armés de l'Ituri préfèrent tuer les Ituriens.
Et on a même appris qu'il y a beaucoup de coupeurs de route. Si on vous arrête quelque part, on vous dit donner 10 000 francs, il faut immédiatement donner. Si vous ne donnez pas, on augmente. Et si vous ne donnez pas, on augmente. À la fin, on vous amène dans la forêt et on vous abat.
C'est ça un peu la difficulté. C'est ça un peu la différence. Quand nous sommes au Nord Kiv, on nous parle de IDF qui tue les gens. Mais quand on rentre à l'Ituri, ce sont des groupes locaux qui tuent les gens. Mais moi, je pense que ça, c'est un problème d'état d'esprit. Est-ce que nous ne pouvons pas changer le mode opératoire? Parce qu'on peut quand même admettre à un certain niveau que peut-être vous avez des revendications à faire. Mais dans un premier temps, est-ce qu'on ne peut pas se dire, ok, nous abandonnons d'abord, on ne tue pas les gens, mais nous optons pour un autre mode opératoire de revendication.
Monsieur Jean-Marc, lors d'une émission qu'on avait tournée dernièrement à l'Université Shalom, où j'avais reçu les représentants des différentes communautés de l'Ituri, certains avaient dit qu'à l'époque, il existait un pacte de sang entre les communautés et que ce pacte a été brisé. C'est ce qui est à la base de tout ce qui se passe aujourd'hui.
Bon, je peux le dire aussi, quand bien même les gens disent que non, il y a des initiatives de paix qui ont échoué, mais les gens oublient aussi qu'il y a eu des initiatives récits, entre autres, les pactes que vous venez de soulever. Il y a eu beaucoup de démarches à l'époque qui ont contribué à la paix en Ituri, mais malheureusement, ces initiatives n'ont pas été capitalisées. Jusqu'à aujourd'hui, on pense toujours créer de nouvelles initiatives, on pense toujours mener de nouvelles actions pour donner la paix. Mais moi, je pense, c'est ce que je voulais aussi dire par rapport à la recommandation. Il est temps que nous puissions aussi tirer des leçons de ce que nous avons fait dans le temps et des choses qui ont contribué positivement. Je crois que ça peut aussi. Mais il faudra aussi souligner cette guerre. En dehors de cette guerre des groupes armés exactions, il y a aussi cette guerre de gloire des acteurs de paix. Tout le monde veut que la paix puisse venir de lui. Donc l'autre, ce que l'autre fait, non, ça, non, non, nous, c'est nous qui allons faire la paix.
Ils ne peuvent pas conjuguer les efforts, voilà, et travailler
donc,
ensemble.
Donc l'objectif n'est pas commun. C'est important, à un certain niveau, il faudra qu'on mette en place un processus inclusif, un processus participatif, où tout le monde voit que la paix comme objectif, la paix comme vision.
D'accord, merci monsieur Jean-Marc. On va prendre d'autres questions dans la salle. Bonjour monsieur.
Merci Radio Okapi pour... La parole m'accordée, moi, c'est l'assistant David Touque du domaine des sciences psychologiques et de l'éducation. J'ai aimé la thématique sur la pacification de la province de l'Ituri confrontée au conflit armé depuis 2017. Je voudrais qu'on puisse parler plutôt des violences armées. Parce que le substrat, la cause, c'est aussi nous, population ituriennes, mais aussi l'État congolais. Les intervenants, que je remercie, ont essayé un peu d'épingler certaines causes, notamment l'absence de l'autorité de l'État. C'est vrai, l'État doit avoir une force dissuasive. Parce que les gens qui se battent, ce sont nous les Ituriens. Mais je me demande qui sont les bénéficiaires de toutes ces tueries. C'est pourquoi, aujourd'hui, moi je pouvais dire que une des causes majeures des conflits au niveau de l'Ituri, c'est la paupérisation de la population de l'Ituri. Ça voudrait dire quoi? L'appauvrissement. La population est devenue pauvre pendant que l'État est en train d'enrichir les uns. Aujourd'hui, il y a certains tireurs de ficelles. J'ai aimé une étude faite par une étudiante de notre faculté qui a parlé de la perception de la communauté l'hindou de la ville de Bouna sur l'activisme de la milice Codeco en Ituri. Et les résultats ont démontré que les lindous qui se trouvent en ville de Bounia ont une perception négative. Et la milice Codeco ne représente pas une menace. Il représente une menace aussi pour eux-mêmes.
Ils ont une perception négative de quoi?
Négative de l'activisme de Codeco. Ça, c'est une étudiante, ça, c'est une étude qui a révélé ça.
Oui.
Alors, aussi parmi les causes, il y a la manipulation. L'un des intervenants a parlé de manipulateurs en cravate. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et aujourd'hui, ces manipulateurs-là, ces politiques, ce sont des gens qui ont été éduqués. Mais aujourd'hui, là où il y a l'épicentre du conflit, les gens ne sont pas éduqués. Ces jeunes-là constituent ce qu'on appelle des jeunes à risque et qui sont prêts à tout. Moi, si je n'ai rien, si on me propose, venez devenir porte-parole de Codeco, on me donne $1 million, je ne peux pas refuser. Voilà la paupérisation. Donc, l'État doit distribuer de manière distributive la richesse à la population. Aujourd'hui, les milices sont entrées, ils sont pauvres. Ils n'ont rien à manger.
D'accord. D'après vous, les causes, parmi les causes de ces violences, la pauvreté et la manipulation politicienne.
Exactement. Aujourd'hui, comme solution, il faut éduquer ces gens. Parce qu'ils n'étudient pas. Ils constituent un groupe social vraiment
marginalisé.
À risque. Aujourd'hui, l'un intervenant a parlé de... Aujourd'hui, tout le monde n'a pas une bonne santé mentale. Pourquoi? Parce que déjà, un facteur de risque, c'est quoi? L'insécurité. Merci.
Merci. Voilà.
Merci beaucoup. Je suis M. Jean-Paul Letounita. Je suis assistant à l'université de Bounia. Je suis du domaine de sciences de l'homme et de la société. J'aimais votre présence ici. Mais avant de donner mes propositions pour des solutions, j'aimerais revenir sur les allégations ou les propos de la société civile qui est représentée aujourd'hui par Monsieur
Lossa. Oui.
Je ne serai pas un insurgé pour lui dire que la société civile, au-delà de sa mission de booster, de pousser le gouvernement à agir, la société civile joue le rôle du médiateur et au-delà de ça, cette médiation ne doit pas être de l'antagonisme, mais plutôt de collaboration. Mais la manière dont nous voyons la société civile gérée ici, la société civile entre en antagonisme avec l'État. Ce que l'État fait, la société civile ne le juge pas bien et ça bloque le processus d'aller en consortium pour lutter contre l'insécurité. Nous sommes de jeunes. Nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de la paix. Et cette paix doit caractériser nous gêne nos actes. Si vous les dirigeants, quelles que soient vos portions de gouvernance, vous nous incitez à l'agressivité, finalement, nos enfants vont agir comment? Nos petits frères vont agir comment? Moi, je pense qu'il n'est plus question aujourd'hui de lapider le gouvernement provincial, de lapider le gouvernement central, mais c'est à nous, chacun, dans sa portion, de pouvoir ériger la paix. Vous, en tant que société civile, je ne pense pas que vous ayez plutôt une frontière de sensibiliser, nous, la population, à la culture de la paix. On ne doit pas laisser cette tâche seulement au gouvernement. S'il vous plaît, l'appellation à la ville morte, l'appellation à l'incivisme fiscal. Mais ça, quelle solution apporter si et seulement si vous savez que cette population vit au quotidien? Vous les tuez doublement. Excusez-moi de pouvoir vous tenir ce ton, mais je vous prierai, s'il vous plaît, de négocier cette collaboration avec le gouvernement. Alors, selon mes analyses, je suis itourien par nature. Je suis congolais, je suis itourien par nature. Je crois que ceux qui font le droit savent. Selon mes analyses, je vois que la question de l'insécurité de l'Itourie, pour avoir la solution, il faut une sorte d'un bâton, et ce bâton qui ne doit pas être magique. Parce que je le situe comme à l'époque, j'évoque ici l'auteur Thomas Hobbes, qui parle de l'état de nature.
Est-ce qu'il faut implorer seulement le bon Dieu qui nous fasse grâce
pour avoir la paix? Il faut qu'on laisse Dieu tranquille aussi. Dieu ne peut agir que lorsque le sujet agissant, agit pour que je demande l'accompagnement de Dieu. On ne doit pas toujours charger Dieu. On n'est pas dans la discussion de Dieu, s'il vous plaît. Mais je suis en train de dire que la question de l'Itourie se situe dans le contexte, j'évoquais ici Thomas Hobbes, de l'état de nature. Et pour que l'on sorte de l'état de nature, il faut, j'emprunte encore le mot de Thomas Hobbes,
oui,
un Léviathan. Et ce Léviathan a été déjà là. C'est ce que la société civile tue. La société civile lapide ce Léviathan. Le Léviathan, là, c'est l'État congolais. L'État congolais que la société civile ne veut pas sentir. Alors, maintenant qu'il y a le Léviathan, ce que nous devons faire, c'est collaborer avec ce Léviathan, accompagner ce Léviathan.
Est-ce qu'il faut envisager l'organisation d'une conférence provinciale sur la paix en Itourie?
Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que je vais corroborer avec mon collègue. Il est question aujourd'hui de tourner la page et d'inculquer à ce jeune, nous tous ici,
la culture de la paix.
Et ça va passer par l'éducation.
Et ça, c'est le rôle de la société civile.
Aussi. Alors, je vous prierai de pouvoir peut-être considérer que pour que l'on surmonte la question de l'insécurité, je crois on en a fait avec les étudiantes de l'INIBOU, uniquement les étudiantes de l'INIBOU, que l'on cherche des solutions comment il faut surmonter l'insécurité. Moi, je pense que l'occupation et l'équipation de jeunes, ça peut être l'une des solutions pour qu'il n'y ait pas de sécurité.
L'emploi des jeunes, il faut...
Voilà. Autrement dit,
oui,
il faut donner l'emploi aux jeunes. Là où il y a l'insécurité, parce que je ne peux pas comprendre que tous nos étudiants ici, ce qui est vrai que c'est un problème pour toute la République, mais nous avons des potentialités. Je me dis que pourquoi est-ce que le gouvernement congolais est incapable d'ériger des usines et des sociétés ici à Ituri, là où il y a le poumon du développement.
Alors si je vous comprends bien, c'est la pauvreté qui est à la base de tous ces conflits. Et si on donne de l'emploi aux jeunes, on résout le problème de la pauvreté. Donc les conflits automatiquement vont s'arrêter.
J'ai dit, en fait, ne m'en prêtez pas automatiquement parce que j'ai dit, d'accord, c'est une des solutions.
D'accord.
Mais j'aimerais poser la question à monsieur de la société
monsieur
civile.
Monsieur Dieudonné, d'accord. Oui,
monsieur Dieudonné, je ne sais pas, je vais reprendre encore la même question que l'autre. Quel est votre apport en tant que dirigeant de la société civile,
d'accord,
que vous avez fait pour sensibiliser ces gens-là, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous avez fait?
Merci beaucoup. Moi, c'est Marie-Thérèse Moussafiri. Je suis l'assistante au domaine des sciences pour le département des sciences de l'information et de communication. Je ne vais pas aller dans les questions, dans tout ça, mais je vais donner ma lecture sur la situation de l'Ituri.
Et des pistes de solutions.
Oui, bon, un peu les pistes de solutions, oui. La situation de l'Ituri, moi, je la qualifie avec Thierry Michel, le producteur là, des films, comme à pire des silences. Ça veut dire quoi? Le drame de l'Ituri est tellement grand, mais ça passe épais sous silence. Ça ne donne pas la pleur par rapport à ce qui se passe. Le problème de l'Ituri, c'est d'abord, pour moi, j'ai dit ma lecture, c'est un problème économique. Le problème de l'Ituri est économique, récupéré par les politiques, au nom ou sur le dos des communautés. Donc c'est un problème économique que les politiques ont récupéré au dos des communautés. Alors comment ça évolue? Si c'est un problème économique, entre guillemets, exploitation et ainsi de suite, est-ce que c'est de cette manière? Est-ce qu'il n'y a pas une ligne comment le faire pour exploiter les richesses qui se trouvent dans une région? Est-ce qu'on doit amener la population à ce désastre pour pouvoir les évacuer et laisser les terrains libres pour exploiter l'exploitation? Et je projette le problème de l'Ituri un peu plus loin. Au finish, je dis plus loin, il y a entre guillemets, ce que les gens ne veulent pas qu'on puisse parler, c'est la balkanisation. Et si le problème serait loin après avoir amené la population à souffrir et accepter cette balkanisation, est-ce que c'est de cette manière-là qu'on doit le faire? Si on a réussi à balkaniser les pays à travers le monde, est-ce que c'est tout de cette manière qu'on doit tuer la population, on doit amener la population à une impasse pour qu'au finish, qu'on puisse balkaniser les pays? Alors comme solution, moi je voulais seulement dire aux dirigeants, si le problème est l'exploitation des ressources minières, qu'on voit quelles sont les voies et les moyens pacifiques d'exploitation de ces richesses, et s'il faut balkaniser l'Ituri, quelles sont les voies, comment mettre la population congolaise ensemble à accepter ou à refuser cette balkanisation, pourvu que ça passe dans une pacification au lieu d'amener la population à ce que nous vivons aujourd'hui. J'ai dit.
Merci beaucoup.
Monsieur Kassouara Taïgoum, chef des travaux à l'Université de Bounia, département, domaine des sciences juridiques, politiques et administratives. Nous saluons la présence de la radio Okapi à travers vous jeudi pour que la situation de l'Ituri soit parlée à l'échelon national. Les tableaux sombres et dramatiques de l'Ituri a été peint. On a donné plusieurs raisons que moi je trouve non fondées. Lorsqu'on parle de la pauvreté, nous sommes en République démocratique du Congo. L'Ituri, c'est l'une des provinces. Est-ce qu'il n'y a que la province de l'Ituri qui est pauvre? On peut dire aujourd'hui l'Équateur ou l'Équateur de Mambré. Toutes ces provinces sont riches, les Bandundu, les Bas-Congo. C'est pas vrai. Le problème de l'Ituri, c'est un problème de la volonté politique. On manque la volonté politique. Je m'exprime. Il y a un peuple qu'on ne veut pas dire, les Hutus, réfugiés Hutus rwandais, fuient en Tanzanie en 1994, sont rentrés et installés à Ituri sous prétexte de Banyabusha. Personne n'en parle. Personne.
Ils sont où, à Djougou?
Non, ils sont dans le territoire du Rumu, à Boga. Mais ils font des incursions. On n'en parle pas. Ils sont venus, ils ont un camp, on n'y accède pas. Ils sont venus avec des feuilles de route délivrées par le gouverneur Julien Palitouk du Nord Kivu à l'époque. On n'en parlait pas. La volonté politique. Aujourd'hui, à Ituri, il y a plusieurs morts. aucune foi deuil national, aucune foi, même pas un seul mot de condoléances, même du premier citoyen de la République, aucun, aucune foi. Aujourd'hui, il y a une semaine, 4 jours, on a tué 60 personnes. Toute la République, silence. Donc, le vrai problème de l'Ituri, on peut dire les restes de causes qu'on a évoquées, oui, il y a la pauvreté, ce n'est pas seulement la volonté politique, l'exploitation minière. On ne veut pas nous dire que l'Ituri est la province la plus riche de toutes les provinces de la République démocratique. Ça existera, mais néanmoins, on manque une volonté. Il y a des années, M. Jody, on avait une base militaire de Motawa, base militaire de Gombari, base militaire vers le nord Kivu. On a détruit ça. C'est ça l'insécurité. Il faut rétablir ces bases militaires qui assuraient la sécurité. Aujourd'hui, nous devons dire, en 2009, le président français est arrivé. Il a parlé à l'Assemblée nationale. Nous avons des richesses. Nous dormons sur des richesses. Les autres vont toujours prendre. Tant qu'on n'a pas une armée républicaine en République démocratique du Congo, le voisin viendra toujours chercher des richesses chez nous. Ne nous l'aurons pas. Si nous ne voulons pas nous développer, mais les autres viendront chercher ces richesses. Donc nous devons avoir une armée républicaine qui doit assurer la sécurité de la République démocratique. C'est à ce titre-là. C'est à ce titre-là qu'on peut avoir la véritable paix. Aujourd'hui, on parle de conflits interethniques et de consorts. Non.
Certains ont dit que c'est un problème des Ituriens eux-mêmes.
Ce n'est pas vrai. Quand on parle de Léviathan, la création, la fondation de l'État, on a quitté la période en droit pénal, on a quitté la période de vengeance privée vers la période de la vengeance publique. On ne doit pas se rendre justice. Ce n'est pas possible. Il y a l'État congolais. L'État congolais doit arbitrer. Les Hema, les Lenou, les Alour, tout le
les
monde.
Bira et
nous
tout
vivons monde. Sur cette terre depuis que nous existons. Pourquoi on n'a pas connu cet état-là seulement aujourd'hui? C'est parce que l'État est faible. Trop faible. L'État existe pour percevoir des recettes, pour percevoir des taxes, des impôts. L'État existe. Mais pour assurer la sécurité, l'État n'existe pas. Comment expliquer?
Mais l'état des sièges a été instauré par le gouvernement justement pour en finir avec ce genre de situation.
Je vais arriver si on peut. Je prends le cas du groupe armé FRP. C'est depuis 2003. Ils existent. Est-ce que l'état existe pour mater ces groupes armés? Depuis 2003, nous sommes en 2023, 20 ans. L'état cohabite avec les groupes armés. L'état des sièges, parlons-en. On a instauré l'état des sièges. Ça fait 2 ans. Et quand vous lisez l'ordonnance instituée à l'état de siège, on n'a pas dit que l'état de siège viendra négocier avec les groupes armés. Non. Doit imposer la paix. On ne dit pas aller négocier. Comment voulez-vous négocier? Il y a un président qui l'a dit. Les groupes armés qui tuent viennent ici en veste et logent dans des hôtels IP. C'est pas possible ça. On doit les mater. Voilà, un peu de mots, c'est la volonté politique.
Alors, pour pacifier la province, qu'est-ce qu'on peut en résumer? Qu'est-ce qu'on peut
c'est retenir? L'autorité de l'État.
Il faut restaurer
l'autorité de l'État.
La volonté
notamment,
politique.
Notamment, toutes les bases militaires qui existaient sur l'ensemble de la République, et plus particulièrement la partie Est de la République, il faut restaurer ces bases militaires. Nous avons cité Motawa, Gombari, vers le nord Kivu, entre Goma et Rutshuru. Toutes ces bases-là, même plus loin vers le sud Kivu, vers Uvira, il faut restaurer ces bases militaires. C'est Merci. Alors, à ce titre-là, que même nos voisins qui veulent, nos voisins qui veulent exploiter nos richesses illégalement, auront peur de la République démocratique du Congo.
Merci beaucoup, sous vos applaudissements. Au Capi Service, nous sommes à l'Université de Bounia. Nous parlons de la pacification de l'Ituri.
Moi, c'est Njava Lola Joseph Innocent, assistant. Je suis aussi prêtre
oui.
de l'Église catholique.
Okay.
Je suis de la formation de la philosophie. Alors, je ne reviens pas sur ce qui a déjà été dit, mais voici ma position. Je me demande jusqu'à quand l'État doit négocier avec les inciviques. Un incivique, c'est hors la loi. C'est comme ça on le nomme. Et il a sa place à la prison, pas parmi la population. Si l'État congolais a ouvert la porte du dialogue aux inciviques, moi je les appelle des inciviques, l'État a montré sa bonne volonté de rassembler ses fils en organisant des dialogues, et ainsi de suite. Mais aussi, l'État doit savoir qu'un incivique, c'est lui qui a posé l'arme entre les mains. Comment on les gère?
Merci de regarder la caméra. Oui.
Comment on les gère? Alors, il faut que l'État soit État, un véritable État. Je voudrais aussi contredire mon collègue Jean-Paul, c'était philosophe comme moi, en ce qui concerne le rôle de la société civile. La société civile n'est pas l'État. Elle n'aura pas l'État dans son rôle. La société civile n'a pas le pouvoir à gérer. Elle n'est que la bouche du peuple. Alors, c'est raison pour laquelle, même dans un État organisé, la société civile doit aller en contre-courant vers l'État. Parce qu'elle aura toujours des choses à dire. Pour dire que si la société civile va du côté de l'État, alors elle cesse d'être société civile parce qu'elle est la bouche du peuple. Mais dans la situation actuelle de l'Ituri, on a déjà atteint les paroxysmes dans les violences.
Merci beaucoup.
Raison pour laquelle l'État doit tout faire pour dissuader cette rébellion. Mais je voudrais pour finir un recadrage par rapport au concept itourien. Qui est itourien, qui ne l'est pas. Pour moi, quiconque a choisi l'Itourie comme sa deuxième province devient itourien. Mais ce qu'on constate, c'est ce qui suit. Ceux qui se croient ne pas être itourien ne se mettent pas dans la peau de l'Itourie. Ils pensent que la situation actuelle ne concerne que les Emma, les Lendo et les autres. Ce qui affaiblit aussi le processus de la recherche de la paix. Alors, dans ce même angle d'idée, nous constatons que même les multinationales, les ONG, et quiconque voudrait se retrouver dans la situation de l'Ituri, pour lui c'est une bénédiction que les violences continuent. Et ça on peut dire, j'aimerais dire que l'Ituri c'est une des provinces de notre pays, de la République démocratique du Congo. Donc on ne peut pas abandonner les Ituriens. Vous vivez à Bunyame, vous retirez, vous ne vous mettez pas dans la peau de la province.
Merci beaucoup, monsieur Labbé.
C'est un problème congolais, un problème global.
D'accord, merci.
J'aimerais faire cette petite observation
merci
par rapport au concept ituriens. Comme dit le professeur Ngoma Binda, on n'est pas citoyen, mais on le devient.
On le devient.
Voilà.
Merci beaucoup. Allez-y.
Alors, bonjour à
30
tous.
30 secondes, hein. Voilà.
Moi, c'est Méthode Mbolitipaï, le président du Parlement d'enfants de l'Ituri. Au début, on avait suivi Papa Jean-Marc dire ici, il y a les enfants qui naissent dans l'insécurité, grandissent dans l'insécurité. Alors, ma question est de savoir, votre part en tant que membre, acteur de la protection de l'enfant, qu'est-ce que vous avez déjà fait pour essayer un peu de détraumatiser ces enfants qui traînent encore dans les différentes rues de la ville de Bounia et qui sont dans des différents centres d'hébergement des déplacés.
Merci beaucoup.
Et aussi, il y a pas mal d'enfants qui traînent dans les différentes rues de Bounia. Aujourd'hui, ces enfants, on nous dit dès qu'un enfant se retrouve dans la rue, automatiquement, cet enfant appartient à l'État. Où est l'État en question? Et à messieurs de la société civile, vous attaquez la bouche autorisée de la population. Chaque fois on vous entend parler de quand il y a des massacres, vous parlez toujours non, il y a eu tel nombre de morts, tout ça. Mais pour les enfants, vous ne martelez jamais.
D'accord. Merci beaucoup.
Honorable. Et ce que je vais demander, c'est que le gouvernement doit prendre au moins en compte les enfants.
Merci beaucoup. Je réponds au nom de mon père Mamba. Je suis Dallasement, le promoteur du complexe scolaire Maïndeleo. Je suis ici représenté la fondation Mambana Maïndeleo que j'incarne. Comme on doit être bref, j'ai une interpellation par rapport à la classe intellectuelle que nous sommes ici. Je me réinterpelle ce que l'assistant a dit d'abord, car il dit que si on lui donnait 1 000 $ ou bien 1 million de dollars, il peut être porte-parole de mauvaises personnes. Je pense qu'il ne peut pas le dire au nom de la science, parce que ses étudiants sont ici en train de l'écouter. Je vais demander qu'il retire cette parole-là, parce que sinon, ça ne peut pas marcher des gens dans l'éducation. Alors, merci.
Comment?
Merci beaucoup. J'aimerais dire ceci. Camarades de haut, nous sommes en train d'être formés comme la classe de demain, les cadres de demain.
Donc,
mais ma préoccupation, c'est que demain, c'est nous-mêmes là qui serons des chômeurs. Parce que je me dis, après notre formation ici, personne ne sait ce qu'ils vont faire. Et ça, ça devait être notre grande préoccupation. Et nous devons nous regrouper pour anéantir tous ceux qui ne concourent pas pour le bien de la population, pour le bien de cette province ici. Alors, je suis en train de dire ceci. Nous, ici réunis, nous avons un défaut. On est ensemble dans l'auditoire. Mais après, on s'est identifié chacun par sa tribu. Et même si on est dans le même auditoire, on sait que je ne dois pas coopérer avec tel parce qu'il est de telle tribu. Mais nous voulons que l'État congolais, que nous demandons là, je ne sais pas si l'État congolais c'est le président, ou bien si c'est qui doit venir nous demander de nous aimer. Tu es avec quelqu'un dans l'auditoire, dans une salle de classe, et après, tu ne l'aimes pas.
Voilà,
j'aimerais merci. Qu'on arrive à penser sur ce qu'on doit faire pour que l'Ituri devienne une famille.
Merci, merci honorable.
Bonjour à tous. C'est l'étudiant Gloire Amissi en deuxième année de licence gestion informatique. J'ai pas une question pour les intervenants, mais je voulais un peu rappeler la conscience de tout celui qui s'appelle Congolais. Moi, je mets de loin l'optique de division des concepts. Il y a gouvernement, population, opposition, société civile. C'est ce qui nous divise, c'est ce qui nous partage. Je trouve que depuis que le Congo est en conflit, moi je laisse loin l'optique de l'Ituri, parce que je trouve que l'Ituri, c'est une victime, c'est une province victime, parce que c'est un point stratégique de l'adversaire. Voilà pourquoi à l'Ituri, il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup
merci.
De bois.
D'accord.
Je trouve que ce concept de patriotisme manque dans nous tous.
Voilà, il faut développer le patriotisme. Merci beaucoup.
Moi, c'est John Solomasumbuko-Sebi. En fait, je n'ai pas de solution à proposer, mais j'ai une question aux sociétés civiles. Et la société civile nous a cerné ici que voilà, il s'agit donc de l'absence de l'État. Alors, ma question est celle de savoir qu'est-ce que la société civile est en train de mener comme action pour pouvoir faire ou amener les désidérata de la population auprès de l'État.
Merci beaucoup. Merci. Rapidement, 30 secondes, quelle est votre question?
Merci la radio Okapi pour m'avoir accordé la parole. Je suis Besoulani Amiseka, Gauthier de LD Droit Privé Judiciaire. Mes recommandations se fondent sur trois ordres dont je responsabilise l'État congolais, la population ituriène et l'Agence des Nations Unies à travers la MONUSCO, son représentant ici à Ituri. Je commence par l'État. L'État doit réussir à restaurer et à maintenir la confiance de la population à sa capacité de protéger, administrer et délivrer la justice et répondre à ses besoins essentiels. Pour ce qui concerne la population ituriène, Elles doivent savoir que la réalisation d'une paix durable exige de modifier les comportements favorisant la violence et la discrimination, y compris l'hypocrisie.
Bonjour, moi c'est Céline Zibakio de L1 Psychologie Clinique Ancien Système.
Oui.
Ce n'est pas une question, mais c'est juste une petite recommandation.
Oui.
Tout ce qui a été dit, ce n'est pas mauvais, c'est bien. Moi, je voulais juste dire, pour la pacification de notre chère province de l'Ituri, il faut peut-être travailler sur le mental des Lituriens. Il faut travailler sur le psychisme des Lituriens que nous sommes. C'est-à-dire quoi? Quand nous sommes ici des étudiants, Nous sommes une génération, nous sommes l'espoir de notre chère province de demain. Entre nous, nous sommes appelés à prodiguer, à promulguer les informations qui peuvent nous aider demain. Quand tu te réveilles le matin, tu entres dans un groupe WhatsApp, tu vas lire, nous-mêmes les jeunes, les étudiants, les intellectuels, nous sommes en train de dire des choses qui ne peuvent pas nous aider demain à acquiser d'autres tribus, dans le tribalisme, ce n'est
d'accord.
pas bon.
Merci
c'est
beaucoup.
Là, j'ai juste une exemple.
Merci à vous. Donc, nous-mêmes jeunes, faisons un effort dans les réseaux sociaux, évitant de diffuser des informations contre les autres, oui. Monsieur Dieudonné Lossa, vous avez la parole, et ensuite on va clôturer avec Monsieur Jean-Marc.
Merci beaucoup, encore de nouveau pour nous remettre le micro. Je remercie de nouveau tous ceux-là qui ont pris la parole, qui ont eu le courage d'exprimer ce qui passait en eux-mêmes. Mais je regrette que l'assistant, le Tunita, est dehors, alors que à son niveau comme assistant, je crois qu'il ne pouvait pas aussi entretenir des flous autour du rôle de la société civile. Je crois que ce n'est pas bien à son niveau. La société civile, mes chers frères et sœurs, est partenaire de l'État congolais. À partenariat, on a une relation non verticale, mais horizontale.
Vous avez 30 secondes, M. Dieudonné.
Oui, on a 30 une
secondes
relation
seulement.
Horizontale.
On peut conclure,
donc,
qu'est-ce qu'on retient?
Là où le partenaire ne joue pas son rôle, l'autre partie est appelée à le lui rappeler. C'est ce que nous faisons tout le temps. Je voudrais également que nous sachions que toutes les revendications de la société civile sont faites par des voix citoyennes. Il n'y a jamais eu de voix violente par laquelle nous sommes allés pour revendiquer quelque chose.
Merci,
nous voulons terminer.
Donné.
Nous voulons terminer.
Oui.
À côté des actions militaires qui restent obligatoires si on veut avoir la paix à l'Ituri,
oui.
Je pense que les fils et filles de l'Ituri doivent se retrouver, se mettre autour d'une table pour analyser l'impact de tous ces dégâts qu'on a connus
d'accord.
sur l'Assemblée de
merci
la province.
Beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Jean-Marc Mazio, on va conclure avec vous rapidement, okay. en 30 secondes.
Ok, merci beaucoup. Moi, je vais remercier tout le monde et j'ai dit il est temps que nous puissions créer des possibilités pour avoir une compréhension commune des problèmes que nous traversons en Ituri. Comme vous l'avez suivi, tout le monde a sa version. Même au sujet des conséquences causes, il y a plusieurs versions. C'est important que les gens puissent se mettre ensemble pour avoir une idée commune par rapport à ça.
D'accord.
Et nous pensons aussi que l'autorité de l'État soit restaurée et l'État présent. Merci.
Merci, monsieur. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à l'émission Okapi Service en direct de l'Université de Bounia. Sous vos applaudissements. Tonnerre d'applaudissements! Merci d'avoir participé à ce programme spécial. Merci à M. Dieudonné Lossa, coordonnateur de la Société civile de l'Ituri. Merci également à Jean-Marc Mazio, PCA de l'ONG Mwangaza Peace. Merci à vous, chers camarades. Merci de votre présence dans cette salle pour participer à ce programme. Applaudissez pour vous-même et à la prochaine!